Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
La constellation d'aujourd'hui est toute petite, mais très reconnaissable. Il s'agit de la constellation du Dauphin, située toute proche de l'axe Altaïr-Deneb. Sa forme ressemble un petit peu à celle de la lyre. Elle n'est pas très brillante, mais elle est quand même facilement reconnaissable. Le dauphin a été identifié il y a très longtemps. L'origine de ce nom, en revanche, n'est pas très explicite. Trois légendes s'y rattachent. La première concerne la Néréide Amphitrite, dont Poséidon tomba amoureux et qu'il kidnappa. S'étant enfuie, elle fut convaincue par un dauphin que le dieu des mers était une personne correcte. En récompense, Poséidon plaça le dauphin sur la voûte céleste. Comme quoi Poséidon n'est pas toujours que le dieu qui se met en colère, il peut aussi être tendre et romantique. La deuxième histoire raconte que le poète Arion faisait route vers Tarente. Il fut menacé d'être jeté par-dessus bord par l'équipage, qui voulait le voler. Il ne dut son salut qu'à un dauphin, attiré jusqu'au bateau par la musique que le poète avait demandé à jouer avant son exécution, ce dauphin le transportant à bon port. La troisième raconte le voyage de Dionysos. Il voulait aller à Argos, sa patrie, mais découvrit qu'il était sur un navire de pirates. Il fait alors pousser une vigne pour arrêter le navire, puis transforme les pirates qui voulaient le voler en dauphin. Mais Poséidon eut pitié du chef qui faisait un grand nombre d'offrandes et de sacrifices aux dieux. Il décida donc de le prendre et de le mettre dans le ciel. Cette constellation est également connue sous le nom de chameau chez les astronomes arabes. Depuis 2500 ans, et probablement même avant, même si on n'en a pas de traces, les hommes, philosophes, naturalistes, physiciens, tentent de proposer des systèmes du monde, pour décrire le monde de façon unifiée et cohérente. Un système doit donc à la fois être une théorie unifiée, mais également en cohérence avec les phénomènes observés, les éclipses, les trajets des astres, etc. Même si les plus anciennes observations datent de plus de 2000 avant notre ère, avec le relevé d'une éclipse solaire en Chine en moins 2137, par exemple, les systèmes les plus anciens datent, eux, de 7 ou 6 siècles avant Jésus-Christ, dans la période pré-socratique. On y retrouve des noms célèbres, comme Thalès et Pythagore, dont tout le monde connaît les célèbres théorèmes. Mais aussi Anaximandre, un penseur grec, connu pour être le premier à avoir tenté de décrire et d'expliquer l'origine et l'organisation de tous les aspects du monde, d'un point de vue que l'on qualifie rétrospectivement comme scientifique. Nombre de philosophes et commentateurs contemporains estiment, pour cette raison, que les théories d'Anaximandre représentent une étape essentielle et révolutionnaire dans l'histoire des sciences. En ce sens qu'il propose une explication du monde qui ne fait intervenir ni la mythologie, ni les dieux, mais seulement des règles mécaniques. Ça nous paraît l'évidence même, mais à l'époque, c'était une véritable révolution. Il est également un des premiers à consigner ses découvertes scientifiques par écrit, et donc un des premiers auteurs grecs en prose. Malheureusement, peu de ses écrits sont parvenus jusqu'à nous. Dans le système qu'il propose, la Terre flotte au centre du monde, sans aucun support. Et l'univers ressemble à un système de roues creuses concentriques, emplies de feu, et aux parois percées d'une bouche, comme le trou d'une flûte. Le soleil était donc le feu que l'on voyait à travers un trou de la roue la plus éloignée, et une éclipse correspondait à la fermeture de ce trou. Le diamètre de la roue solaire égalait 27 fois celui de la Terre et celui de la Lune, dont le feu était un peu moins intense, 18 fois. Son trou avait la capacité de changer de forme, ce qui explique les phases lunaires. Les étoiles et les planètes les plus rapprochées étaient conçues sur le même modèle. Son contemporain, Thalès, est aussi considéré comme un des premiers astronomes. Il décrivit notamment la petite ours et conseilla aux marins de s'en servir pour se guider. Il calcula la durée de l'année, constata que l'année ne comptait pas 365 jours, mais 365 et un quart. Il calcula des intervalles des solstices aux équinoxes. Il évalua le diamètre apparent du Soleil et les grandeurs relatives de cet astre et de la Lune. Sans doute en s'aidant d'un instrument tel qu'un gnomon, une espèce de cadran solaire, ou d'un bâton vertical lui permettant de mesurer la portée de l'ombre du soleil. L'intérêt de Thalès de Milet pour l'astronomie le poussa à faire de nombreuses observations sur les constellations. Il aurait été le premier à noter le voyage du Soleil entre les deux tropiques. Il établit ainsi que certaines étoiles n'étaient pas toutes fixes les unes par rapport aux autres. À partir du IVe siècle, Aristote propose trois grands principes qui auront cours jusqu'au XVIIe siècle. D'abord, le géocentrisme. Pour Aristote, la Terre est sphérique, ce qui est une révolution par rapport aux représentations précédentes d'une Terre plate, mais il postule qu'elle est au centre de l'univers, entourée de sphères, celle de la Lune, celle du Soleil, et puis autour, ce qu'il appelle la sphère des fixes. Le deuxième grand principe d'Aristote, c'est que le monde se divise en deux. D'un côté, le monde sublunaire, soit tout ce qui se passe en dessous de la Lune, qui est changeant, qui est incertain. Les êtres y vivent, y naissent, changent, meurent. Et d'un autre côté, le monde supralunaire, celui du ciel et des astres, qui sont éternels et n'admettent aucun changement, car ils sont constitués d'éther et possèdent une vie véritablement divine qui se suffit à elle-même. Dans la représentation aristotélicienne, les astres circulent sur des orbes, par des mouvements. Et ça, c'est le troisième grand principe d'Aristote. Des mouvements circulaires et uniformes. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes de cohérence avec les observations, en particulier les phénomènes de rétrogradation des planètes. En effet, les planètes semblent par moments revenir en arrière quelque temps avant de reprendre leur course normale. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Pour y répondre, tout en respectant le caractère parfait du cercle, Aristote imagina tout un système de sphères dont certaines ne sont là que pour faire tourner d'autres sphères et qui, elles, porteront peut-être un astre. Voilà pourquoi il faut 55 sphères pour seulement 6 planètes. Au deuxième siècle de notre ère, le grec Ptolémée, mathématicien, astronome, physicien, géographe, va formaliser la théorie des épicycles initiée par Hipparque et qui tente d'expliquer la rétrogradation en postulant que chaque planète se déplace en mouvement circulaire et uniforme, nous sommes donc toujours dans un système aristotélicien, dont le centre n'est plus la Terre, mais dont le centre suit lui-même un mouvement circulaire autour de la Terre. Un peu comme si vous dessiniez avec un spirographe en prenant une petite roue dans un grand cadre, cela vous donne une trajectoire en pétales de fleurs qui, vue de la Terre, est cohérent avec des rétrogradations. Ce système, proposé par Ptolémée, va rester en vigueur pendant plus d'un millénaire. Il sera remis en cause par l'émergence du système héliocentrique, avancé très prudemment par Nicolas Copernic au début du XVIe siècle. Il ne présentera sa théorie héliocentrique que comme une facilitation mathématique pour éviter de rentrer dans des controverses avec l'Église. Dans le système de Copernic, les astres sont toujours comme au temps des Grecs des objets parfaits, évoluant donc, en toute logique, sur des trajectoires parfaites, les cercles. Le Suédois Tycho Brahe, un célèbre astronome dont nous reparlerons plus tard, car ses techniques d'observation et ses observations tout à fait exceptionnelles pour son époque ont grandement fait avancer l'astronomie, Tycho Brahe donc proposera un système hybride entre géo et héliocentrisme, avec la Terre fixe, le Soleil et la Lune qui tournent autour d'elle, mais les autres planètes qui tournent autour du Soleil. À partir des excellentes observations de Tycho Brahe, Johannes Kepler établira les lois qui portent son nom et qui décrivent les trajectoires des astres comme des ellipses. Ce sont des lois empiriques qui sont des traductions mathématiques des observations. Le système héliocentrique est finalement validé par les observations de Galilée, qui eut fort à faire à l'Église à l'époque quand il tenta de faire circuler ses idées. Et c'est finalement Isaac Newton, reprenant les lois de Kepler et l'idée des trajectoires elliptiques, qui parachèvera le système avec sa théorie de la gravitation universelle. Il apportera la preuve mathématique des trajectoires elliptiques des planètes autour du Soleil. L'idée d'un Soleil fixe, centre de l'univers, et d'une Terre qui, comme les autres planètes, tourne autour du Soleil, sera alors diffusée largement par le siècle des Lumières et l'essor de l'encyclopédie. Les découvertes scientifiques du XXe siècle ont montré que la gravitation n'est pas la seule interaction de l'univers. On trouve en effet l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte. Les découvertes de la relativité générale et restreinte, ainsi que la physique quantique, ont conduit à revoir la prétention selon laquelle l'univers est prédictible selon des lois scientifiques. La notion de hasard a été réintroduite. Plus récemment, la découverte en cosmologie de la matière sombre et de l'énergie sombre montre que l'univers est essentiellement composé, à plus de 95%, de matière et d'énergie inconnues, et que la matière que nous connaissons représente en fait une infime minorité de ce qui existe dans l'univers. Cela constitue, pour certains auteurs, une nouvelle révolution copernicienne, l'émergence d'un nouveau système. Je vous propose une petite expérience. Si ce soir, vous sortez, regardez les étoiles, prenez le temps de vous souvenir de tous nos ancêtres, de vous replonger dans leur vision de l'univers. Imaginez-vous d'abord sous une voûte, coincé, et voyez le ciel comme le décor du fond, illustrant les différentes aventures des dieux. Puis, mentalement, avancez dans le temps, songez aux planètes, au soleil, à leur trajectoire, aux 55 sphères qui régissent les trajets des 6 planètes. Et puis, avec un grand bond en avant, regardez le ciel et imaginez que 95% de ce qui le compose ne se voit pas. Comment notre relation à l'univers a changé au gré de nos connaissances ? Comment, en 2 millénaires, nous sommes passés d'un univers immuable, centré sur la Terre, au statut de planète gravitant autour d'une étoile, elle-même étoile parmi tant d'autres dans une galaxie, elle-même galaxie parmi tant d'autres dans un univers en expansion ?